franceinter.fr.
Bonjour à tous. À la une de l'actualité, un nouveau coup de semonce à venir des États-Unis après l'accord sur le climat, l'UNESCO. Donald Trump s'apprête encore à secouer la planète. Le président américain devrait s'attaquer cette fois à l'accord sur le nucléaire iranien. On y revient en début de journal. Forte actualité américaine aujourd'hui avec les suites de l'affaire Weinstein. Une enquête a été ouverte pour viol à New York. Et en Californie, ce sont les flammes des flammes meurtrières qui ravagent les vignobles et les maisons, bilan 31 morts. En France, trois titres principaux, la question sensible des allocations familiales remise à plus tard, le gouvernement lance son plan pour lutter contre les déserts médicaux et les députés réfléchissent à plus taxer les alcools forts. Sur ces trois sujets, nous aurons en ligne Olivier Véran, député d'En Marche. Au programme également le procès Mera et l'audition d'un troisième homme, un centre de l'armée perquisitionné, l'affaire Lafarge en Syrie qui s'accélère. On terminera avec un satellite qui ennuie les Inuits et la ville de Chaumont, qui est devenue en quelques mois la capitale française du volleyball. Quelques mots de météo, Sébastien Léas, bonjour. Du beau temps, encore et toujours.
Oui, bonjour Sébastien. Après les fréquentes grisailles de ce matin, place au soleil et aux belles éclaircies pour cet après-midi. On aura quand même quelques plaques de nuages bas qui resteront récalcitrantes au nord de la Seine, autour de la Méditerranée ou vers la Bretagne. Et puis côté température, c'est toujours la douceur avec 18 à 27 degrés cet après-midi, mais il fera encore plus chaud dans le sud-ouest avec jusqu'à 30 degrés.
Merci Sébastien. Prévision complète à la fin du journal. Bienvenue dans le 13h. C'est un peu comme s'il aimait jouer avec les nerfs de la planète. Une fois de plus, donc, le monde est suspendu à une décision cruciale de Donald Trump. Le président américain doit se prononcer en fin d'après-midi sur l'avenir de l'accord passé avec l'Iran sur son programme nucléaire. Un accord historique, vous le savez, signé sous Obama, soutenu par le monde entier ou presque, mais que Trump dénonce depuis le début comme le pire accord jamais passé par Washington, dit-il. Alors aujourd'hui, fin du suspense, le président s'apprête à ne pas renouveler ce qu'on appelle la certification de ce texte, ouvrant ainsi la possibilité d'un retour des sanctions contre Téhéran. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
On n'en est pas encore là, mais ce qui est sûr, c'est que la stratégie de Trump, elle n'a pas changé. L'Amérique d'abord, au risque d'un isolement international toujours plus grand.
Ah oui, c'est la grande braderie façon Trump, la doctrine du retrait. Tous les accords internationaux signés hier sont en train d'y passer les uns après les autres. Le dernier en date, vous l'avez dit, c'est en effet l'accord sur le nucléaire signé avec Téhéran. Il n'est pas sûr qu'in fine, dans deux mois, le Congrès américain réapplique les sanctions, mais ce sera contre l'avis du président qui applique, lui, sa promesse de campagne « America first ». L'accord nucléaire aujourd'hui, l'UNESCO hier pour discrimination anti-israélienne, mais aussi l'accord de Paris sur le climat qui écorne les énergies fossiles, mais encore le partenariat transpacifique, ce vaste traité de libre-échange entre l'Amérique et l'Asie, et les accords ALENA du continent nord-américain, États-Unis, Canada, Mexique, eux aussi en cours de renégociation pour cause de déséquilibre des balances commerciales au détriment de Washington. Tous les grands traités multilatéraux ont aujourd'hui le pistolet américain sur la tempe. Ce n'est pas totalement nouveau sous administration républicaine, du retrait de la Société des Nations au début 20e à l'introduction du droit de veto à l'ONU, la crainte du multilatéral et la défense du nationalisme ont toujours été une obsession outre-Atlantique. Mais cette fois, un an à peine après son arrivée aux affaires, Donald Trump pousse le bouchon si loin qu'il prend le risque de passer de l'hyperpuissance à l'isolement total.
Luc Lemonnier, chef du service étranger de France Inter. Et puis je rappelle que Pékin appelle ce matin à Washington à préserver l'accord nucléaire avec l'Iran. On le disait à l'instant, les États-Unis se sont donc retirés hier de l'UNESCO, entraînant dans son sillage Israël. L'UNESCO qui est en pleine effervescence ces jours-ci, et pas seulement à cause de ces ruptures. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, celle qui préserve notamment le patrimoine mondial, se cherche un nouveau directeur général. Et c'est le jour décisif aujourd'hui, vendredi, puisque après 5 tours de scrutin, on devrait connaître le nom de l'heureux élu ce soir. 3 favoris dans cette course. La France, avec l'ancienne ministre de la Culture Audrey Azoulay, l'Égypte et le très influent Qatar. En coulisses, Christian Chesneau, la lutte d'influence fait rage.
Dans la bataille de l'UNESCO, tous les coups sont permis ou presque parce que chaque voix compte, surtout celle des petits États. On découvre ainsi que parmi les 58 votants, l'île de Saint-Christophe et Niévès dans les Caraïbes a autant de poids que les États-Unis ou la Chine. Bref, la chasse aux voix ressemble à un marathon diplomatique, une course d'obstacles qui a démarré depuis des mois. Le candidat du Qatar, Hamad El-Khouari, n'a pas hésité à inviter à Doha tous les membres du conseil exécutif de l'UNESCO. Une dizaine de pays africains ont fait le déplacement dans l'émirat. Dans un tweet très explicite, le candidat qatarien a fait savoir qu'il n'arrivait pas les mains vides au siège parisien de l'organisation. En coulisses, cette diplomatie du carnet de chèques fait jaser. Face au Qatar, la France a mobilisé tous ses réseaux pour soutenir Audrey Azoulay. À l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, Emmanuel Macron a fait un éloge appuyé de l'UNESCO. Mais surtout en coulisses, le président français a fait campagne auprès de ses homologues pour vendre la candidature d'Audrey Azoulay qui l'accompagnait à New York.
Christian Chéneau, l'image passait en boucle hier sur les télés américaines. Le producteur Harvey Weinstein lance quelques mots à la presse avant de monter dans un gros 4x4 noir. Direction, semble-t-il, un centre de désintoxication sexuelle en Arizona. Je ne vais pas bien, j'espère, dit-il, avoir une seconde chance. Voilà jusqu'ici les seuls mots de l'homme par qui le scandale est arrivé. Mais il va falloir sans doute en dire beaucoup plus, car désormais, la justice américaine a pris le dossier en main. La justice de New York a ouvert hier une enquête pour viol présumé en 2004, une fellation imposée à la comédienne Lucia Evans. L'autre parole de la nuit, c'est celle d'une figure historique d'Hollywood, Jane Fonda. Sur CNN, elle raconte avoir été mise au courant des agissements de Weinstein il y a un an. « J'ai honte, dit-elle, de ne pas avoir parlé plus tôt, mais je suis heureuse que ça sorte. » Elle n'est évidemment pas la seule à avoir été informée de la violence de Weinstein. C'était un secret de polichinelle dans le milieu du cinéma, y compris dans sa propre société, Weinstein Company. Grégory Phillips.
Il a été l'un des assistants personnels d'Harvey Weinstein et il témoigne anonymement, la voix maquillée sur la chaîne CBS. L'employé de la Weinstein Company raconte que lui n'a jamais été témoin d'une agression sexuelle, mais il pense que d'autres salariés ont peut-être été utilisés pour amener des actrices jusqu'au producteur. Beaucoup de ces rencontres avaient lieu dans des chambres d'hôtel. L'ex-assistant dit que rétrospectivement, il a l'impression que toute la société était organisée pour être au service de Weinstein et satisfaire ses désirs. Y a-t-il des responsabilités plus haut au sein du conseil d'administration? Le site d'information TMZ, spécialisé dans l'actualité du show business, affirme que Harvey Weinstein et sa société avaient signé un contrat en 2015 stipulant que le producteur devrait payer de très lourdes amendes à l'entreprise s'il était poursuivi pour harcèlement ou agression sexuelle et qu'il serait tenu responsable des conséquences financières qu'un tel scandale pourrait avoir. Harvey Weinstein d'ailleurs a été licencié de sa propre société de production dimanche soir. Son frère Bob, son associé, a fait part de sa surprise totale quand le scandale a éclaté. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
On reste encore aux États-Unis avec ces incendies catastrophiques en Californie, parmi les plus meurtriers de l'histoire de l'Ouest américain. 31 morts aujourd'hui, des centaines de disparus, des dizaines de milliers d'hectares de terres viticoles ravagées et une situation qui ne cesse d'empirer à cause des vents violents. Les pompiers ne parviennent toujours pas à maîtriser les flammes. Le reportage d'Éric De Salve.
C'est une ville fantomatique, totalement déserte, ensevelie sous une pluie continue de cendres et un épais nuage de fumée. Les 5000 habitants de Calistoga ont été évacués en urgence devant l'avancée du feu sur les collines environnantes. Seuls les pompiers, la police et des volontaires comme Sean sont restés. Avec son camion-citerne, ce retraité natif de la région ravitaille les pompiers en eau.
Toute la Napa Valley est une région fantôme. J'ai des amis qui ont perdu leur maison. Ma famille a été évacuée. C'est triste. Je suis resté pour aider, mais c'est ici que j'ai grandi. C'est dur de tout voir brûler. La dévastation est très importante.
Dans leur caserne de Calistoga, les pompiers sont en alerte depuis 3 jours. Le feu est à 2 kilomètres à peine et menace maintenant d'entrer dans cette ville touristique.
Le vent pousse le feu vers la ville. Notre inquiétude, c'est que des braises tombent sur la ville et déclenchent le feu ici.
Dans la ville de Santa Rosa, toute proche, les pompiers n'ont rien pu faire. Des quartiers entiers ont été détruits par le feu, laissant derrière le paysage lunaire de centaines d'habitations carbonisées. Seules leurs cheminées sont encore debout. Calistoga, Éric De Salve, RFI pour France Inter.
Le journal de 13h. France Inter.
L'actualité en France, tête à tête ce matin entre la CFDT et l'Élysée. Laurent Berger, le leader de la centrale syndicale réformiste, était reçu ce matin par Emmanuel Macron. Dernier entretien du président sur les réformes économiques et sociales à venir, notamment celle de l'assurance chômage. Une réforme qui inquiète les partenaires sociaux. Laurent Berger a donc demandé de changer de méthode et souhaite commencer les négociations par une réunion multilatérale, tout comme la CGT. L'autre actualité économique, c'est le coup de pied en touche sur une question qui commençait à polluer l'atmosphère au gouvernement, la question de la suppression des allocations familiales pour les familles aisées. Eh bien, hier soir, les députés d'En Marche se sont engagés à ne finalement pas déposer d'amendement à l'Assemblée. Le débat aura lieu, assure-t-on, mais plus tard. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Vous êtes député d'En Marche dans l'Isère, rapporteur du projet de budget de la Sécurité sociale. Et vous êtes à l'initiative de pas mal de sujets aujourd'hui. On va profiter de votre présence dans le 13h pour brosser plusieurs actualités en même temps. Les allocs d'abord, mais aussi les déserts médicaux et puis enfin les taxes sur les alcools forts et les sodas. La suppression donc des allocations familiales pour les familles aisées. On remet ça à plus tard parce que c'est trop sensible comme dossier.
Non, pas parce que c'est trop sensible. Depuis le début, il était question qu'il y ait une mission d'information parlementaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire de la concertation. Il faut consulter les organisations familiales. Moi, par exemple, j'ai reçu l'UNAF hier en audition à l'Assemblée nationale, la CNAF, la Caisse nationale, il y a deux jours. C'est un travail qui doit se faire dans la durée. Il ne faut pas voir la question des prestations familiales par la seule lorgnette des allocations, parce que sinon, on passerait à côté de la cible. Donc, il faut pouvoir avoir une réflexion. L'enjeu, c'est d'avoir une politique nataliste forte dans notre pays, d'accompagner les familles, qu'aucun couple ne renonce à faire un enfant pour des raisons financières. Donc tout cela nécessite du temps, de la concertation. Il n'a jamais été question qu'un amendement, en tout cas ça ne figurait pas dans le projet de loi initial du budget. Les députés En Marche, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir des initiatives parce que quand ils n'en ont pas, on le critique. Quand ils en ont, c'est très bien de l'accompagner. Étaient soucieux que cette question puisse être abordée dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ce sera le cas grâce à cette mission d'information qui a été annoncée et qui permet de dire on travaille sereinement.
Des députés soucieux aussi de faire plus à gauche, on va dire, parce que c'est ça un peu le procès qu'on fait au gouvernement et au président depuis des semaines. Un gouvernement pour les riches, c'était ça l'idée de faire pencher la balance plus à gauche avec cette proposition ?
C'est pas parce qu'on nous fait un procès que le procès est forcément fondé. En tout cas, pour ma part, je ne trouve pas du tout que le budget ou le budget de la Sécu manque d'équilibre. Vous avez, c'est un budget qui est celui des promesses tenues. Vous avez une augmentation sensible du pouvoir d'achat pour quasiment tous les Français. Vous avez des mesures sociales très fortes pour les personnes qui sont en situation de précarité, ceux qui perçoivent l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse. Vous avez une hausse de la prime d'activité. On relance la compétitivité des entreprises. Pourquoi ? Pour créer de l'emploi dans notre pays. Et l'emploi, c'est la première des solidarités. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout à la recherche d'équilibre ou de symbole.
Ça est cohérent
pour
vous.
Par contre, on est là pour réfléchir, pour bouger les lignes. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem, ce qui ne veut pas dire qu'on veut bousculer les choses pour le plaisir de bousculer, mais parce qu'il faut pouvoir réfléchir et les Français l'attendent. Et on voit que les Français sont prêts à un certain nombre de réformes, les accompagnent aujourd'hui et c'est pour cela aussi que nous avons été élus derrière la bannière du président de la République.
Autre sujet du jour important, Olivier Véran, la présentation, je le disais, par le gouvernement de son plan contre les déserts médicaux et notamment le doublement des maisons médicales qui vont permettre à des médecins de travailler moins et à plusieurs. N'y a-t-il pas un risque là de changer un peu de modèle, c'est la fin de la médecine libérale et le retour et l'arrivée plutôt d'une médecine plus fonctionnarisée, pourrait-on dire ?
Ah non, pas du tout. Déjà, sont écartées les mesures coercitives à l'installation, c'est très bien parce qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles sont inefficaces partout où elles ont été essayées dans les pays qui nous ressemblent. C'est des mesures incitatives que nous connaissons. Non, le vrai Big Bang, c'est la télémédecine, y compris d'ailleurs dans la loi de Sécu. On va enfin décloisonner la télémédecine, faire la téléconsultation, la téléexpertise, permettre d'utiliser les outils modernes pour réduire les distances grâce au numérique. C'est aussi les maisons de santé pluridisciplinaires. L'idée, c'est de les doubler très rapidement sur l'ensemble du territoire, parce que les médecins, les infirmières, les kinés ne peuvent plus travailler de façon isolée. Donc vous avez tout un tas de propositions qui sont mises sur la table, qui sont des propositions pragmatiques. Vous avez 300 postes partagés de médecins qui pourront faire à la fois de la ville et de l'hôpital. C'est pas de la fonctionnalisation, c'est juste que le gouvernement a entendu la volonté d'un certain nombre de médecins, notamment des jeunes, d'avoir un exercice diversifié.
Pour rester sur la télémédecine, on en est encore loin, si je puis dire, dans le sens où le réseau Internet reste fragile pour beaucoup des communes les plus reculées. 500 communes encore classées en zone blanche sont les plus isolées et les plus concernées, donc on n'y est pas encore.
Les maisons de santé pluridisciplinaires sont rarement situées dans ces communes de zone blanche. Elles sont généralement situées au carrefour des intercommunalités. Donc elles sont situées dans des endroits où il y a un accès au numérique. Et sinon, ce serait une raison de plus pour travailler, pour supprimer ces zones blanches et renforcer l'accès numérique pour tous. Non, c'est une mesure importante. Vous savez, elle était très attendue. Moi, j'ai souvent dit que la seule innovation avec la télémédecine, ce serait de la financer. Et c'est enfin le cas. Ça fait 15 ans qu'on en parle comme d'une innovation. Beaucoup de pays l'ont mis autour de nous. C'est une solution pragmatique, encore une fois. Il n'y a pas de martingale contre les déserts médicaux. C'est un bouquet d'actions pragmatique pour répondre aux besoins des territoires et je trouve que ça va dans le très bon sens ce qui a été proposé.
On brosse le dernier sujet avec vous, pas moins Olivier Véran, pas moins un sujet controverse d'ailleurs, une nouvelle taxe sur les alcools forts, les alcools de plus de 15 degrés, le vin et la bière ne seraient pas concernés. L'idée, votre idée, puisque c'est vous qui êtes derrière tout ça, c'est de lutter contre l'obésité ?
Alors, non, je suis pas du tout derrière l'idée d'augmenter la fiscalité sur l'alcool. D'abord, la taxe sur l'alcool, elle existe. Et ensuite, c'est une proposition qui a pu émerger, mais qui n'est pas encore sur la table. Je n'ai pas vu à ce stade d'amendement sur la situation des alcools. Sur la situation des sodas, il y avait hier la journée de l'OMS qui disait qu'on a multiplié le nombre d'enfants obèses par 10 en 40 ans dans le monde. On sait que les sodas sont une cause d'obésité importante. Il existe aujourd'hui une taxe. Il s'agit pas d'en créer une. Elle existe, cette taxe, mais elle touche toutes les boissons. Qu'elles soient sucrées ou qu'elles soient pas sucrées. Et moi, ce que je serais enclin à proposer, mais ce ne sera pas une démarche isolée, il faut que ce soit discuté, validé par le groupe majoritaire auquel j'appartiens, et discuté évidemment avec les ministres concernés, ce serait de supprimer la taxe là où elle ne fait pas sens, c'est-à-dire là où il n'y a pas de sucre, et ensuite de moduler la taxe en fonction du taux de sucre des boissons, de façon à inciter les industriels à la réduire, cette concentration en sucre, pour préserver la santé des enfants. Vous savez, c'est vraiment un facteur important d'obésité et de diabète de type 2, et on ne peut pas considérer, en plus il y a des inégalités sociales, c'est un sujet de santé publique, donc on est là aussi pour s'en emparer. Donc pas de création de taxe, par contre modulation des taxes existantes, bon. Là où ça s'estance pour la santé publique des Français et des Français.
En 10 secondes, donc pour l'instant, il n'est pas question d'une taxe supplémentaire sur les alcools, on est d'accord?
Pour l'instant, je n'ai pas vu à ce stade. D'accord. Vous savez, on est au stade des discussions. L'examen commence la semaine prochaine en commission. Ensuite, il y a la semaine suivante l'examen en séance. Les députés ont plein d'idées, ont envie de travailler sur le texte. Et c'est tant mieux, c'est un joli texte. Donc on verra ce qu'il en sortira, mais ça nous promet de beaux débats.
Merci Olivier Véran, vous êtes député, je le rappelle, d'En Marche, rapporteur du projet de budget sur la sécurité sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le 13h. Et puis à noter cet autre projet du gouvernement qui ne devrait pas manquer aussi de faire des vagues, selon le journal Le Monde. Le gouvernement entend discrètement réformer la gestion des grandes copropriétés en créant un conseil d'administration habilité à prendre des décisions lourdes, comme des ravalements par exemple, sans l'aval du syndic. En économie toujours, c'est ce qu'on appelle vulgairement une grosse tuile. Le budget de l'État risque d'être plombé par une facture inattendue de plusieurs milliards d'euros. Il y a une semaine, je vous le rappelle, le Conseil constitutionnel a censuré ce qu'on appelle la taxe de 3% sur les dividendes, un dispositif mis en place sous François Hollande pour en quelque sorte, augmenter l'impôt sur les sociétés étrangères. Et comme les sages ont retoqué le mécanisme, eh bien, il faut maintenant rembourser les sociétés en question. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Et la facture s'annonce très très salée.
Ouais, c'est un vrai coup dur pour l'État. L'an prochain, le manque à gagner pourrait avoisiner les 10 milliards d'euros. Pour cause, il va falloir maintenant passer à la caisse, rembourser, vous l'avez dit, l'argent collecté durant 5 ans sous François Hollande. Et le souci, c'est que tout ça devra se faire sans délai et avec intérêt. Aucune facilité de paiement ne sera consentie. Pas question pour les sages d'échelonner le remboursement sur plusieurs années, comme l'avait espéré le gouvernement. Un gouvernement qui savait le dispositif menacé en avril dernier. La Cour de justice européenne l'avait déjà censuré. En prévision, l'État avait donc anticipé un remboursement, mais en se montrant pour le moins optimiste. Seuls 300 millions d'euros ont ainsi été provisionnés dans le budget de l'an prochain. Avouez qu'on est quand même bien loin des 10 milliards. Résultat, par cette décision, le Conseil constitutionnel oblige Bercy à revoir sa copie en urgence, avec derrière la menace d'un dérapage budgétaire qui risque de faire grincer quelques dents à Bruxelles.
Maxime Debs du service économique de France Inter. L'avenir de Richard Ferrand se jouera maintenant dans moins de 2 heures. C'est à 15h que le parquet de Brest doit décider quelle direction va prendre l'affaire des mutuelles de Bretagne où le chef du groupe parlementaire d'En Marche est suspecté d'avoir favorisé sa compagne. La justice a le choix entre 3 options. Le classement sans suite, le renvoi devant le tribunal ou la mise en examen. C'est une information que nous vous révélions ce matin sur France Inter. Une ONG demande à auditionner l'ancien ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius dans l'enquête sur les activités du cimentier Lafarge en Syrie et notamment sur ses liens avec Daesh. Bonjour Sarah Guibaudon.
Bonjour.
C'est l'ONG Sherpa qui saisit la justice et qui se demande si l'État était au courant des agissements du cimentier.
Oui, la question est apparue au fil des auditions de cadres de Lafarge. Plusieurs ont relaté avoir eu des échanges réguliers avec les autorités françaises qui nous poussaient à rester, affirme un ancien directeur général adjoint. Ces déclarations ont plutôt fait tousser du côté du Quai d'Orsay. Pour nous, il ne fallait pas rester, souligne une source diplomatique. Les autres entreprises françaises étaient parties. Cette source assure que Lafarge a été mise en garde contre les risques d'une collusion, même indirecte, avec Daesh et des groupes terroristes. À ce stade, le dossier judiciaire ne permet pas de dire que les autorités françaises étaient au courant des troubles arrangements de Lafarge. Lafarge ne verse rien au PYD, un groupe kurde, ou à l'État islamique, peut-on lire dans une note diplomatique du 10 septembre 2014. Note qui évoque néanmoins les laissez-passer que doivent se procurer les transports. transporteurs sans qui l'usine ne pourrait fonctionner.
Alors au-delà de cette demande d'audition de Laurent Fabius, l'enquête s'accélère. Sarah, d'anciens salariés syriens sont entendus par les juges d'instruction parisiens.
Oui, ils sont 11 parties civiles, 4 réfugiés en Allemagne et en Norvège sont venus raconter les conditions de plus en plus périlleuses dans lesquelles ils ont travaillé, les bombardements, les checkpoints tenus par des groupes armés, les kidnappings et le ballet des bétonnières en pleine guerre civile. Sherpa souhaite faire témoigner les autres. Malgré les problèmes de visa et de coûts, l'association prend tout en charge. Elle a lancé un appel aux dons.
Sarah Guibaudot du service police-justice, merci. Un dossier à retrouver sur franceinter.fr et demain à 13h20, l'équipe de Secret d'Info consacrera une émission spéciale à l'affaire Lafarge en Syrie. À la frontière du judiciaire et du militaire, les armées françaises ont-elles payé trop cher des transporteurs privés pour acheminer leur matériel? Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Sébastien.
Une question au lendemain des perquisitions dans un centre militaire à Vélizy-Villacoublay en Île-de-France.
Oui, des perquisitions menées près de Versailles, dans ce centre militaire chargé de l'acheminement du fret vers les théâtres d'opération et aussi à Paris, chez un prestataire des armées, la société ICS. C'est le recours à cette entreprise qui fait l'objet d'une enquête du parquet national financier à la suite d'un rapport parlementaire en mars dernier. Dans le collimateur de la justice, un marché passé pour l'utilisation d'Antonov 124, des avions capables de transporter jusqu'à 120 ou 150 tonnes de matériel selon les modèles, des appareils que l'armée française ne possède pas et dont elle a besoin par exemple pour transporter les munitions des canons César utilisés en Irak. Le problème, c'est que la facture de ces Antonov a grimpé de façon vertigineuse. Plus de 67 000 euros l'heure de vol cette année, une augmentation de 37% en un an. Or, un autre contrat passé auprès d'une agence de l'OTAN met l'heure de vol à moins de 39 000 euros pour le même type d'avion. Alors, le recours à deux prestataires différents aurait été maintenu dans un souci de sécurisation des opérations extérieures, car le nouvel A400M dont l'armée s'est équipé, ne transporte pas autant de fret et surtout sa mise en service est très lente.
Bertrand Galichet, merci. On part maintenant pour le palais de justice de Paris. Pour la fin de la troisième semaine d'audience, au procès des complices présumés de Mohamed Merah, deux hommes sont dans le box des accusés. Abdelkader Merah, frère aîné du tueur de Toulouse et de Montauban, et Feta Malki, un ami d'enfance. Mais un troisième homme aurait pu s'y retrouver également, Mohamed Meskin, mis en examen et un temps soupçonné dans le dossier, mais qui a finalement bénéficié d'un non-lieu. Ce troisième homme a été entendu ce matin. Sophie Parmentier.
Mohamed Mounir Meskin se présente à la barre, cheveux ras, coupe et barbe très soignée. Il est gérant d'un salon de coiffure. Ce trentenaire a grandi aux Isards avec les frères Merah et il a longtemps cru qu'il allait se retrouver dans le box des accusés à côté d'Abdelkader. Je suis passé pas loin. Tout ça à cause d'un devis. J'ai été éprouvé par cette affaire, confie Mohamed Mounir Meskin, qui raconte l'engrenage qui l'a conduit plusieurs mois en détention provisoire comme complice présumé avant le non-lieu au bout de 3 ans. Le 2 mars 2012, Mohamed Mounir Meskin a passé son permis moto. Il l'a eu et le jour même et les suivants, Abdelkader Merah lui a prêté sa puissante Yamaha avec laquelle Meskin a chuté. Le 6 mars 2012, le voilà donc en train d'établir un devis pour réparer les dégâts. Mohamed et Abdelkader Merah l'accompagnent. Après ce devis, le vol du scooter T-Max aura lieu, mais sans Meskin, contrairement à ce qu'ont d'abord cru les enquêteurs, qu'il avait d'abord désigné comme un soldat salafiste. Une vendeuse était certaine d'avoir vu Meskin avec les frères Merah après le vol du scooter, jusqu'à ce que la vendeuse doute que l'accusation s'effondre, que Meskin redevienne un simple témoin. Mon nom a été sali, j'ai été incarcéré pour rien, se désole-t-il avant de quitter le palais de justice d'un pas pressé, casquette et lunettes noires, écharpe qui lui cache le visage. Au palais de justice de Paris, Sophie Parmentier, France Inter.
Direction le pôle Nord maintenant, où les Inuits s'inquiètent de voir le ciel leur tomber sur la tête. Un satellite de l'agence spatiale européenne, Sentinel 5P, c'est son nom, a été lancé ce matin depuis le nord de la Russie, un outil pour traquer, nous dit-on, les polluants, une logique donc au service de l'environnement. Mais le souci, c'est que certains morceaux du lanceur de ce satellite, eux, ne sont pas très écolos et plutôt très toxiques. Bref, l'outil est essentiel, Sophie Bécherel, pour la recherche scientifique, mais potentiellement très nocif pour les Inuits.
Cela faisait plusieurs semaines que les Inuits du Canada et du Groenland faisaient pression sur Ottawa et Copenhague pour annuler ce lancement de Sentinel 5P. Ils n'ont pas été entendus. Sentinel 5P, avec son unique instrument, un spectromètre, va traquer les polluants atmosphériques. atmosphériques depuis le sol jusqu'à 15 km d'altitude. Seront suivis le dioxyde de soufre, le méthane, l'ozone, le formaldéhyde, les monoxydes de carbone, afin d'avoir une meilleure connaissance de la pollution de l'air des villes, par exemple. À terme, d'autres satellites prendront le relais. La planète sera passée en revue une fois par jour. Les données viendront alimenter le service de surveillance de l'atmosphère de l'Europe pour ensuite mieux anticiper les pics de pollution, par exemple, et aider à la décision si l'on veut décider de la circulation alternée. La circulation, les Inuits s'en moquent. Eux veulent alerter sur la pollution générée par l'hydrazine, le carburant qui fait décoller la fusée Rocket. Quand les étages retombent dans les zones libres de glace, la mer de Barents, par exemple, ils contiennent des résidus de ce carburant toxique. 10% selon Michael Byers, un chercheur canadien qui a rendu public début octobre une étude sur les 10 vols qui, en 15 ans, ont généré des retombées. Il insiste sur le risque pour les poissons et les mammifères marins dont se nourrissent les autochtones.
Sophie Bécherel, notre spécialiste scientifique, un dossier à retrouver, les Inuits et les satellites sur franceinter.fr. Quelques mots de sport pour terminer. On part pour la Haute-Marne avec la ville de Chaumont qui, en quelques mois, est devenue la capitale du volley français. Le club a remporté le premier titre de champion de France de son histoire la saison dernière et la Supercoupe la semaine dernière face à Ajaccio, le vainqueur pourtant de la dernière Coupe de France. Chaumont, c'est pourtant le plus petit budget de la Ligue A, un club familial dont les méthodes de gestion sont reconnues dans tout le championnat et pour qui tout est allé très vite. Guillaume Batin.
Avec un peu plus d'1 million d'euros de budget, le club de la Haute-Marne a surpris tout le monde en remportant le premier titre de champion de France de son histoire devant les poids lourds Montpellier, Tours et Paris. Le réceptionneur attaquant Yacine Louati vient de signer à Chaumont. Il avait justement perdu la finale la saison dernière avec Toulouse face à Chaumont.
À Chaumont, on vient pour cette rigueur de travail que je pense que je n'ai jamais eue tout au long de ma carrière. C'est un des seuls clubs en France qui a son kiné personnel. Ce qu'ici, c'est exemplaire en fait. C'est ce qui m'a fait venir et l'argent ne fait pas tout.
Chaumont a l'ambition de devenir la JOCR du volleyball français. Petits moyens, mais grandes ambitions. Un modèle qui plaît beaucoup au président bénévole du club, Bruno Soirfec.
Avant, certains ne nous adressaient même pas la parole. Mais voilà, aujourd'hui, on parle d'équivalent à équivalent avec des gros clubs. On a vu le lien social que ça pouvait tisser dans un département. C'est ça aussi qui nous fait tenir. Il y a de la fierté, mais en même temps, voilà, on est des bénévoles. S'il faut que je passe le balai dans la salle, je le fais... sans aucun problème.
Une partie de l'effectif champion de France a quitté la Haute-Marne à l'intersaison, mais le capitaine cubain Javier González ou le français Stéphane Boyer, meilleur marqueur de la dernière Ligue mondiale, sont restés à Chaumont. Guillaume Batin, France Inter.
Le championnat reprend ce soir à 20h30 pour Chaumont en déplacement à Nantes. Et puis dernier mot dans l'affaire du FIFA Gate. L'ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valck, réfute les accusations de corruption portées contre lui et le PDG de beIN Media Group, Nasser Al-Khelaifi, dans l'octroi de droits de retransmission de Coupe du Monde de football. Jérôme Valck est soupçonné par la justice suisse d'avoir accepté des avantages indus en lien avec l'octroi de droits médias dans certains pays. Je n'ai rien reçu de Nasser. Il n'y a jamais eu d'échange entre Nasser et moi. Jamais.